Question d'islam par Ghalib Benchir. Aujourd'hui, nous abordons la question du lien entre mathématiques et philosophie, mais dans les épîtres des frères. Avant, je disais les frères de la pureté, mais maintenant je dis les frères en pureté, en présence de l'auteur et du traducteur de certaines des épîtres de ces encyclopédistes avant la lettre. C'est vrai que nous leur avons consacré une émission ad hoc, et aujourd'hui, je reviens sur ces épîtres, et puis d'abord le choix du titre avec Guillaume de Vaudarcy. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Guillaume de Vaudarcy, je suis ravi de vous accueillir. Vraiment, vous êtes un fin connaisseur de la philosophie islamique, notamment dans ses débuts. Vous êtes spécialiste du pythagorisme arabe. Vous-même êtes agrégé de philosophie, chercheur à l'Institut français du Proche-Orient, qui désormais est à Beyrouth. Et puis vous avez longtemps été membre de l'IDEO, l'IDEO étant l'Institut dominicain d'études orientales, mais qui lui se trouve toujours au Caire.
Tout à fait.
Merci encore une fois de nous faire l'amitié de venir. Pour parler, avant nous disions les frères de la pureté et les amants de la sincérité. C'est leur titre au complet, cette confrérie savante, cette société anonyme. Pourquoi vous-même vouliez parler de frères en pureté?
Alors, le titre est même plus long, c'est-à-dire que ce sont en effet « Ikhwan Safa » que je vais traduire par « frères en pureté ». Je vais expliquer pourquoi, mais ensuite, en effet, il y a « Hélène al-Wafa », disons les amants, les amis de la sincérité, de la loyauté plutôt. Et il y a aussi les Amn al-Adl, les fils de la justice. Donc il y a toute une série comme ça de nomenclatures pour les appeler. Alors moi, je choisis Ikhwan al-Safa de traduire cela par frère en pureté. Tout simplement parce que la pureté n'est pas leur sœur, c'est pas les frères de la pureté. C'est un processus, c'est-à-dire qu'il s'agit de devenir frère par la purification de l'âme, des appétits du corps. Alors, en disant cela, je fais déjà un pas de côté, c'est-à-dire que jusqu'à présent, on pensait que Ikhwan al-Safa, frère en pureté, était un pseudonyme servant à dissimuler une société qui voudrait se tenir secrète. En disant frère en pureté, c'est-à-dire en insistant sur le sens de l'expression et non pas sa désignation, j'insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas d'un pseudonyme, mais de ce qu'on appelle depuis Deleuze un personnage conceptuel. Il s'agit de mettre en scène un concept en action par un personnage. Alors, ce personnage n'est pas un personnage individuel, comme pourrait l'être le Socrate de Platon ou le Zarathoustra de Nietzsche. C'est un personnage collectif. C'est les frères qui, par la purification de leur âme, enfin, les individus qui, par la purification de leur âme, deviennent frères. Alors, pourquoi faut-il purifier son âme pour être frère? Parce que, fondamentalement, il y a, disons, les épîtres des frères en pureté, il y a un certain pessimisme anthropologique. Les hommes sont fondamentalement égoïstes et avides. Ils sont orgueilleux, égoïstes et avides. Orgueilleux comme Adam et avides comme était Caïn. Il s'agit de purifier son âme de ces passions qui attachent les individus à leur corps et aux propriétés du monde. Et ce qui impliquerait, en fait, des hostilités avec les autres hommes. Donc, pour devenir frère, il faut purifier son âme. Et une fois qu'on a purifié son âme, alors, comme le dit l'épître 45, mais on peut devenir une seule âme dans plusieurs...
Il y en a 52 au total.
Voilà, il y en a 52, mais on peut devenir une seule âme dans plusieurs corps. Et donc, voilà, le résultat de l'ouvrage, le résultat du passage de ces 52 épîtres qu'on va plus précisément décrire, c'est à la fin devenir une âme pure et donc accéder à la fraternité politique.
Et alors, si on continue sur la nomenclature et le fait d'être les amis, les amants, les amis de la sincérité, cette fois-ci, on peut être ami de la sincérité et non pas en sincérité.
Alors, c'est la même chose, c'est-à-dire que la loi, ça peut être la sincérité ou la loyauté, c'est-à-dire que c'est un lien d'attache avec l'autre. C'est à partir du moment où on a produit cette attache qu'on devient intime. Alors, plus précisément, l'ouvrage pour construire cette amitié ou cette confrérie ou cette communauté reprend les attaches qu'il y a eu au tout début de l'islam lors de l'exil du prophète de Mecca à Médina. Il va mettre en lien...
On est en 622.
Voilà, on est en 622, tout à fait. Le prophète va, avec ses exilés, arrive à Médina et institue une fraternité entre un exilé et un musulman converti de Médina. Et à ce moment-là, cette fraternité est une fraternité même tout à fait matérielle. C'est-à-dire qu'ils doivent partager leurs biens. Ils héritent, c'est-à-dire le frère, disons, adopté, hérite de l'autre. Et dans l'épître, encore 45, les frères en pureté disent, ben voilà, il faut, avant toute coopération intellectuelle, déjà aider l'autre matériellement. Et donc, en effet, il faut que chacun hérite de l'autre. Donc, il y a une mise en place d'une loyauté au sens vraiment tout à fait anthropologique, c'est-à-dire les liens que partagent des frères dans une famille. Ils se doivent assistance, ils héritent des biens de leur père. Et bien, c'est ce modèle-là de la fratrie sur lesquels les Rouen et Safa fondent leur fraternité spirituelle.
Et dernier point, toujours dans la dénomination, ou cette nomenclature, les fils de la justice.
Alors, il y a, la chose est posée dans l'épître introductive. Pourquoi ça s'appelait les fils de la justice? Mon interprétation, c'est que, alors, la justice est liée à cette époque-là à une autre école de pensée, Ahl al-Tawahid ou al-Adla, qui sont en fait la Mu'tazila, c'est-à-dire les théologiens rationnels de l'époque. Et à ce moment-là...
Ce que vous avez dit en arabe, je le traduis, oui. C'est les gens de l'unicité et de la justice.
Et de la justice, oui, tout à fait. Là. Donc les théologiens dans les différentes écoles théologiques du IXe siècle se développent un courant rationnel qui va développer la question du tawahid, c'est-à-dire de l'unicité divine, et la question politique problématique qui est celle de la justice. Ce qui se passe avec la naissance de la falsafa, de la philosophie arabe au début du IXe siècle, chez le philosophe Al-Kindi, c'est que la philosophie se pose comme étant la théologie véritable. C'est-à-dire, qui est capable désormais de résoudre les contradictions du dogme islamique, de défendre ce dogme contre les autres religions dans les disputes interreligieuses, ben c'est la philosophie. Donc quand les Ikhwan al-Safa, les frères en pureté, se disent aussi fils de la justice, ils disent ben en fait, ceux qui défendent la justice, ce sont nous.
Encore pour faire connaissance davantage avec cette société savante secrète, cette confrérie, le cadre historique... Et dans le temps, on est fin 8e, début 9e, ou tout simplement début 9e jusqu'à la fin du 10e. Mais en tout cas, ça couvre un peu plus que deux siècles.
Ces épîtres des frères en pureté sont, dans l'histoire de la pensée, une énigme à la fois historique et philosophique. C'est une énigme historique, puisque on a...
Et c'est dans l'histoire de la pensée universelle, pas uniquement islamique.
Tout à fait. C'est une des grandes œuvres philosophique, qui on pourra peut-être le revoir, a eu des influences très importantes jusqu'à très récemment, mais on pourra peut-être le voir après. Mais c'est une énigme parce que il y a un témoignage qui est sûr, c'est qu'à la fin du Xe siècle, les gens ignorent qui a écrit ces 52 épîtres. C'est-à-dire, c'est dans l'édition actuelle, c'est 2400 pages de philosophie. On ignore qui les a écrites. Et la question est posée. La question est posée et on a deux types de réponses qui vont être apportées. Une, de la part des Ismaéliens, c'est un imam, l'imam Ahmed ibn Abdallah, donc il daterait du début du IXe siècle. Et une autre réponse, d'Al Tawahidi à la fin du Xe siècle, c'est un groupe de savants contemporains qui lui sont contemporains, donc il daterait de la fin du Xe siècle. Donc on a comme ça deux siècles de possibilités pour la datation du livre, ce qui implique... En fait, des interprétations très différentes. C'est-à-dire que si c'est un imam, c'est un écrit à portée fondamentale religieuse. Si c'est un groupe de savants, c'est plutôt de la vulgarisation scientifique et philosophique. Moi, je proposerais une autre hypothèse.
Alors, en attendant votre hypothèse, simplement toujours pour faire connaissance avec ces deux noms, l'imam ismaélien Or, qu'est-ce que c'est que l'ismaélisme qui existe jusqu'à nos jours et qui est incarné par le prince Aga Khan de nos jours? Et vous avez évoqué Abu Hayyan Tawhidi, mort en 1023, et donc ce prosateur, ce polygraphe, cet humaniste, dit-on, puisqu'il y avait un humanisme d'expression arabe en contexte islamique, on nous fait savoir que c'est lui qui aurait ou qui avait révélé quelques noms, au moins cinq, parmi les membres de cette confrérie savante.
Tout à fait. Alors, si on reprend la première hypothèse, les éditions qui sont préparées, du texte qui sont préparées dans un contexte, disons, ismaélien contemporain, puisqu'il aujourd'hui assume en fait la filiation avec les Rasel Ikhwan al-Safa, les épîtres des frères en pureté, fait remonter ça à un imam, c'est-à-dire au successeur de la lignée du prophète, plus précisément à Ahmed ibn Abdallah, et donc affirmerait que les épîtres des frères en pureté seraient, disons, la doctrine des imams, c'est-à-dire la façon dont les imams auraient développer et penser le message coranique. Alors, cette première hypothèse...
N'oublions pas que ces épîtres s'appellent aussi le Coran des imams.
Alors, c'est cette même tradition qui, selon Mustafa Gharib, éditeur d'une épître qu'on appelle compréhensive, c'est-à-dire qui résume les 52 épîtres, dit que les épîtres sont ainsi désignés dans l'ismaélisme. Cette hypothèse pose un problème. Parce que les épîtres elles-mêmes, donc qui sont, j'ai dit, elles font 2400 pages, donc il y a beaucoup d'éléments qui sont développés.
Sur quatre grandes disciplines.
Voilà, alors si on les présente d'abord rapidement, ce sont 52 épîtres qui vont de l'arithmétique jusqu'à la magie et qui présentent l'ensemble du savoir philosophique au sens large, disons profane, de l'époque. Elles sont classées selon certaines classifications des sciences, en passant par les mathématiques et la logique, puis les sciences naturelles, puis les sciences noétiques, métaphysiques, pour finir par les sciences pratiques et politiques. La question de l'imamat, c'est-à-dire de la gouvernance religieuse de la communauté musulmane, est posée dans l'ouvrage. Et les épîtres affirment clairement que l'idée que l'imam, c'est-à-dire que le gouvernant religieux de la lignée prophétique soit caché est impossible. Alors, c'est quoi l'idée de l'imam caché? C'est l'idée que face à l'opposition politique, le descendant ou le successeur du prophète se serait dissimulé.
Ou occulté.
Ou alors l'autre, voilà, il est caché, occulté. Et sa communauté ne serait en relation que par des ambassadeurs, et qui seul connaîtrait où il se trouve et qui il est. Or, les Rasael, les épîtres, s'opposent explicitement à cette idée. Ils disent « Celui qui détient la vérité ne peut être caché. La vérité est une chose qui apparaît au grand jour. » Donc, l'idée que le détenteur de la vérité se cache, ce serait comme dire qu'il suffirait d'un petit nuage pour dissimuler entièrement ou pour occulter le soleil. Donc, ils s'opposent à cette idée-là. Les épîtres s'opposent aussi à une seconde idée, c'est que les Ismaéliens sont appelés aussi les Septimaniens, c'est-à-dire ceux qui défendent la Septimanien de Sept à partir des sept premiers imams.
Sous-entendu qu'il y a les duodécimains, ceux qui, après la mort de Ja'far al-Sadiq, on est en gros en 765, il y a ceux qui reprennent via son frère l'idée que les imams se perpétuent jusqu'au 12e, et chez les Septimaniens et donc les Ismaéliens, avec d'abord son fils Ismaël, qui décède de son vivant, et les Ismaéliens pensent que ça a été transmis, le relais a été transmis à son fils Mohammed, et c'est comme ça que les Ismaéliens perpétuent cette lignée septimanienne. Enfin, il y a encore une nébuleuse par la suite.
Oui, tout à fait, il y a une histoire assez complexe, mais... très vite, dans le chiisme, donc il y a deux grands courants qui sont l'un associé...
Oui, on est dans la grande constellation chiite, vous avez bien fait de le préciser.
Tout à fait. Il y a deux grands courants qui sont les uns associés au nombre 7 et les autres associés au nombre 12. Or, les épîtres des frères en pureté fonctionnent, on va le voir, sur des bases arithmétiques et attribuent à chaque doctrine un nombre. on va peut-être le revoir, mais par exemple, les manichéens vont être associés au nombre 2, les chrétiens vont être associés au nombre 3, les aristotéliciens vont être associés au nombre 4, parce qu'il y a 4 éléments, et il y a le nombre 7. Ils n'en parlent pas, ils en ont juste une phrase, ils disent « Il y a un groupe qui s'est passionné pour le nombre 7, mais il s'est tellement passionné qu'il est devenu fanatique, il en a oublié toute autre vérité. Et on en a trop parlé. » Ils disent « Insistons maintenant sur le nombre 8, sur les partisans du nombre 8. » Donc, il y a... les septimaniens sont évoqués, ils sont placés à un moment de la vérité, mais ils sont aussi critiqués pour leur fanatisme. Donc, cette hypothèse, disons, d'une origine imamique, extrêmement religieuse, ou dans un maître de vérité des Rassel Ikhwan Safa, des épis des frères en pureté, pose problème. Le deuxième témoignage, vous l'avez évoqué, c'est celui de Abu Hayyan al-Tawahidi, ce littérateur de la fin du Xe siècle. Dans le Kitab al-Imtar ou al-Mu'anasa, le livre disons, de la...
En gros, sur l'amitié.
Alors, c'est un ensemble de nuits, c'est-à-dire de soirées, disons, de discussions... comme il y aura après au XVIIIe siècle des salons. Dans ce livre du plaisir et de la convivialité, la 17e nuit porte sur les épis des frères en pureté. Il y a un vizir qui s'appelle Ibn Sa'aden qui les évoque et qui évoque sa curiosité pour cet ouvrage-là. Et toute la nuit, ces épis vont être évoquées et surtout elles vont être réfutées. On va voir pourquoi, mais au cours de cette réfutation, Abu Hayyan al-Tawahidi dit qu'il est, non seulement il en a lu une grande partie, mais qu'il les connaît, qu'il connaît les auteurs. En disant qu'il connaît les frères en pureté, sans dire que ce sont les auteurs. Mais son maître, Sijistani, lui affirme qu'il connaît les auteurs. Et ce sont les mêmes personnes. C'est un groupe qu'aurait rencontré Zayd ibn Rafa'a à Basra.
Bassora, on est en Irak.
Bassora, voilà, on est en Irak. Donc on sort de Bagdad, on va plus vers le sud de l'Irak, et à Bassora, il y aurait un groupe dirigé par Al-Bisti, Al-Maqdisi, mais aussi il évoque d'autres noms, Al-Zanjani, Al-Marajani. Et il dit que voilà, ceux-là ont formé cette doctrine des frères en pureté qui essaierait de faire un accord entre la religion et la philosophie. Et toute la nuit, cette prétention à un accord va être réfutée. Or, donc ce témoignage nous amène, placerait les épis des frères en pureté à la fin du Xe siècle. Or, ce témoignage pose problème. D'une part, Abu Suleiman al-Sijistani, le maître
de Tawahidi,
on sait qui lui aussi affirme cela, on sait qu'il, disons, qu'il n'est pas forcément très attentif sur la vérité historique. Un autre témoignage portant sur un autre système philosophique très important à l'époque, qui est le corpus qu'on appelle Jaberien, corpus d'alchimie, il dit qu'il en connaît l'auteur et que cet auteur-là...
Jaberien, c'est relatif à Jaber, Ibn Hayyan, le Jaber des auteurs latins.
Voilà, tout à fait. Donc, qui est un énorme corpus d'alchimie centré autour d'une figure, Jaber Ibn Hayyan. Et Sijistani dit, moi je connais cet auteur, il donne un auteur tout à fait mineur, et dit, il n'a écrit cela que pour se faire bien voir. Et donc en fait, il détruit la valeur du système en l'attribuant à un auteur mineur et simplement prétentieux. Et le soupçon, c'est que peut-être ici, Abu Hayyan al-Tawahidi fait la même chose. On pourrait relire cette nuit dans laquelle voilà, un vizir arrive et il demande à des nouvelles de cette doctrine très hétérodoxe des frères en pureté. Eh bien, on peut interpréter différemment cette nuit-là et la lire comme une réfutation des frères en pureté face au danger qu'elle constitue pour la pensée orthodoxe de l'époque.
Thank you.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam avec le philosophe Guillaume Devaux d'Arcy et nous parlons aujourd'hui particulièrement des frères en pureté, de leur doctrine, de leurs épîtres, de leur façon de voir les choses à l'époque, de leur Weltanschauung, j'ai envie de dire. Et nous étions en train de réfuter, enfin vous-même, Guillaume d'Arcy, qui avait réfuté les deux hypothèses, celle d'un auteur unique qui serait un imam ismaélien, et celle aussi de Tawhidi qui a donné leur nom, certains disent qui a trahi le secret, en tout cas il n'a pas donné la totalité des frères, au moins quatre ou cinq. Et quelle est votre hypothèse, puisque vous en aviez une?
Ma méthode de travail a été de suspendre la question historique. C'est-à-dire que si on ignore le contexte, si ça peut être le début du 9e siècle ou la fin du 10e siècle, il faut suspendre le contexte. Alors, qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste l'ouvrage lui-même. 2400 pages de texte arabe, ça nous permet quand même de faire une analyse interne importante. Et à partir de cette analyse interne, en trouver le problème philosophique qui s'est posé, le repérer et à ce moment se dire ben, quel est le moment historique dans lequel ce problème a pu surgir. C'est-à-dire tout problème philosophique, toute idée est lié fondamentalement à même s'il est universel, est lié fondamentalement à un concept d'émergence. Donc j'ai mis en suspens la question historique pour me concentrer à la question proprement philosophique. Alors quel est donc les épîtres des frères en pureté sont 52 épîtres proposant pour chacune d'entre elles un résumé d'une science philosophique particulière. Le début nous le dit très bien, il dit, voilà, nous allons étudier le savoir avant la révélation de la Torah, des évangiles et du Coran. Qu'est-ce qu'on avait à ce moment-là? Donc on fait cette expérience de pensée, on met en suspens la prophétie. Qu'est-ce qu'on a? On a les savoirs philosophiques. Et chaque épître va les résumer. Mais ces savoirs, et c'est tout le but des épîtres, c'est de montrer qu'ils n'ont pas simplement une finalité temporelle. C'est-à-dire que connaître l'arithmétique, ça ne nous sert pas simplement à compter. Connaître la géométrie, ça ne nous sert pas simplement à arpenter.
Il y a une gnose derrière.
Il y a une finalité non pas seulement temporelle, mais religieuse à la philosophie. C'est-à-dire que la philosophie n'est pas simplement un ensemble de sciences temporelles, c'est, on pourrait dire, le lieu du salut, fondamentalement, le lieu de la connaissance de Dieu et le lieu du salut.
Une sotériologie rattachée.
Il y a une théologie fondamentale aux sciences et il y a une sotériologie, une science du salut rattachée à chaque science. Donc les épîtres vont en fait être non seulement une accumulation, une série de résumés scientifiques, mais aussi un parcours que l'âme du lecteur va devoir entreprendre pour accéder à la vérité spirituelle et au salut de son âme. Et donc, l'ensemble des épîtres va mener l'âme depuis les premiers principes jusqu'à la connaissance de sa séparation avec le corps pour qu'à la fin, elle soit capable justement de se séparer de ce corps. Donc, il y a tout un parcours d'initiation dans ces épîtres. Et pourquoi il faut passer par tous ces savoirs pour être apte à accéder à la vie éternelle, précisément. C'est-à-dire qu'en gros, voilà, le salut est accessible en passant par l'ensemble du savoir philosophique. Pourquoi toute cette médiation? Pourquoi il ne suffirait pas simplement voilà, d'avoir cru la profession de foi monothéiste en général ou musulmane en particulier et de savoir que voilà, il y aura une résurrection? Parce que l'âme est fondamentalement attachée au corps et que, en fait, cette connaissance est inaccessible à l'individu lui-même. Donc, le système, en fait, consiste à résoudre, en fait, le problème unité-pluralité. Il s'agit, en fait, d'aider l'individu à sortir de son enfermement individuel. On a vu tout à l'heure l'enfermement de l'âme dans le corps, mais en même temps, plus précisément, plus généralement même, l'enfermement dans sa particularité. C'est-à-dire, s'il doit passer par l'ensemble du savoir philosophique, il est confronté à un obstacle, c'est qu'il est incapable, l'individu lui-même, d'accéder seul à tout ce savoir philosophique. Donc, il va falloir résoudre ce problème de cette finitude particulière. D'autre part, il y a un problème, c'est que c'est ce savoir, en fait, est composé de sciences différentes qui peuvent sembler se contredire les unes avec les autres, ou défendues par des doctrines différentes qui s'opposent, ou chaque savoir va être lié à une corporation, et les corporations peuvent être en conflit les unes avec les autres. Donc tout le but, ça va être, en fait, de résoudre ce problème des différences entre savoirs, des contradictions entre elles, et des conflits entre corporations. Donc le problème général de l'ouvrage, c'est le problème de la totalité. C'est-à-dire comment réunir dans une totalité tous les savoirs, les ordonner, et comment réunir dans une totalité l'ensemble des corporations, ou plus généralement des nations humaines, dans une unité politique.
Alors, Guillaume de Vaudarcy, peut-être pour finir, ne serait-ce que momentanément, avec l'auteur, les auteurs à qui on attribue ces épîtres, qu'est-ce que c'est que cette affaire d'un seul polygraphe kindien, kindien relativement à Al-Kindi, Al-Kindus des Latins, donc ce philosophe qui a repris aussi à son compte quelques éléments du pythagorisme arabe.
Tout à fait. Alors, donc j'en viens maintenant, on a c'est la conséquence historique. Si on a établi que le problème général, c'est celui de la totalisation des savoirs et des nations politiques, que la solution proposée pour cette totalisation est ce que vous avez évoqué, le pythagorisme. C'est-à-dire que, pour le en dire en un mot, les épîtres vont donner à chaque savoir un rang. Un rang qui va être lié à un nombre. Donc on a dit, il y a la pensée du 2, la pensée du 3, la pensée du 4, ainsi de suite.
La pensée du 4 parce qu'il y a les 4 éléments.
Tout à fait.
Et il y a aussi les 4 causes qu'il revoit un peu. La cause efficiente, la cause finale, la cause logique et la cause formelle.
Alors l'aristotélisme est mis dans le rang du 4, parce qu'en effet, 4 éléments ou 4 causes, les choses sont toujours dans leur analyse, chez Aristote, classé par 4. Mais le problème, c'est que chaque doctrine, ils vont dire, se passionne pour un nombre particulier. Et donc, s'enferme, donc, possède une vérité qui est indiscutable, mais qui est une vérité particulière. Ils vont dire, en fait, seuls les pythagoriciens ont pensé le tout. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas pensé un nombre particulier, mais ils ont pensé la suite des entiers naturels. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et ainsi de suite. Et donc, ils ont dit, la vérité n'est pas dans le nombre, mais dans la suite. Et les épîtres prennent à ce moment-là un hadith célèbre, où ils disent, bah, en fait, il faut rendre à chacun ce qui lui est dû. Et donc, en effet, il faut donner à chaque doctrine son rang, c'est-à-dire reconnaître que chaque doctrine, chaque école de pensée a une vérité, mais que celle-ci n'est que particulière, et que seule la suite arithmétique permet de les englober tous. Donc maintenant, si on dit qu'on a le problème, on a la solution qui est pythagoricienne, la question c'est quand cette question s'est posée ou était adéquate à son contexte et quand ce pythagorisme a eu une importance historique. Eh bien, on ne peut pas dire la fin du Xe siècle. Pourquoi est-ce que la fin du Xe siècle, la question de la totalité des savoirs est résolue depuis longtemps. On a des classifications de sciences qui sont effectuées et par contre, la question de la totalité politique, c'est-à-dire en gros la question de l'empire qui réunirait toutes les nations, est peut-être un rêve déchu, un rêve terminé, puisqu'il y a désormais, à la fin du Xe siècle, 3 empires musulmans. Un en Andalousie, un en Ifriqiya, en Tunisie, qui est fatimide, et un troisième, l'empire abbasside, sur l'Irak, sur l'Orient. Donc, il faut remonter dans le temps. Alors, ce que j'ai fait dans mes recherches doctorales, c'est que je suis remonté dans le temps. Je suis remonté dans le temps, je suis remonté jusqu'au début du Xe siècle, et là, on voit qu'en fait, les épîtres des frères en pureté sont déjà utilisés. Ils sont déjà utilisés par Abu Hatem al-Razi, qui est un missionnaire.
À ne pas confondre avec l'autre Razi, le Razès, voilà, le médecin philosophe.
Voilà, et qui il débat. Donc, Abu Hatem al-Razi utilise les épîtres des frères en pureté pour répondre justement au médecin Abu Bakr al-Razi. Donc, les épîtres devaient être antérieurs à ce débat-là qui a lieu, disons, entre 910 et 920. Et si on remonte, en fait, on en vient à un moment qui est marqué par une grande figure qui est celle d'Al-Kindi. Al-Kindi, qui est celui qui a organisé en partie, mais pas seulement, c'est pas le seul, la traduction du patrimoine grec, du patrimoine scientifique grec, et qui a constitué la philosophie en théologie musulmane. Et alors, le moment d'Al-Kindi, c'est le moment de la transmission du savoir philosophique antique. Qu'est-ce que le fait Al-Kindi ? Ben, il adapte tout ce savoir philosophique au contexte musulman. Mais, à la fin de la vie d'Al-Kindi, on arrive...
Il est mort en 872, en gros.
Alors, c'est pas exactement, 70, disons, souvent 70. Dit avant 870. Avant 870. Il laisse, voilà, un champ du savoir qui est éclaté. Alors, c'est pas le seul, dans d'autres domaines, quelqu'un comme Al-Jahez, avec le livre des animaux, laisse aussi un savoir, disons, lexicographique et zoologique très éclaté. Donc, on a... autour de 870, parce que Jahez est contemporain d'Al-Kindi, un savoir philosophique qui est éclaté. Donc on arrive à un moment où il faut unifier tout ce savoir. C'est ce que fait quelqu'un comme Ibn Qutayba, qui est un lexicographe important, et c'est ce que font aussi les épis des frères en pureté. Donc le lieu, en tout cas, qui serait adéquat philosophiquement, ou le moment adéquat, c'est la fin du IXe siècle. Or, ce pythagorisme dont se revendiquent les frères en pureté, c'est aussi celui dont se revendique Al-Kindi. Et si on lit l'ensemble des Ras al-Ikhwan al-Safa, des épîtres en fer en pureté, on retrouve absolument tous les éléments de la pensée d'Al-Kindi.
Bien. Je pense qu'on a réglé, nous avons réglé ensemble la question des origines, des auteurs, de l'auteur unique ou les auteurs pluriels. Maintenant, vous avez esquissé un peu la doctrine. Si je reviens à la notion pour eux, surtout dans la partie mathématique, c'est qu'il y a la primauté de l'arithmétique, et tout est mathématique à l'origine.
Tout à fait. Alors, cette idée de la primauté de l'arithmétique, c'est une idée qui vient d'Al-Kindi. On pourrait dire que c'est la grande révolution kindienne. Il faut peut-être partir de là, très rapidement, pour comprendre les conséquences. L'idée de la primauté de l'arithmétique résout un problème théologique fondamental en islam. Le problème fondamental, c'est le problème du tashbih, qu'on traduit souvent par anthropomorphisme, c'est-à-dire le fait d'attribuer au créateur transcendant des attributs de la créature. La théologie rationnelle disait que c'est la solution, enfin il y a eu plusieurs solutions avant le Kindi, ça a été de dire, une des solutions, ça va être d'interpréter les versets coraniques qui sont anthropomorphiques. Ceux qui disent que Dieu a une main, qu'il est assis sur un trône, ben on va les interpréter. Il y a un sens plus rationnel à trouver à ces versets.
Cette approche, tout à fait, est de facture mu'tazilite.
Cette approche est de facture mu'tazilite.
Ça renvoie à l'école mu'tazilite, les rationalistes
de l'islam,
comme on dit.
Tout à fait, que j'ai appelé la théologie rationnelle, tout à fait. Une autre approche, je vais dire, mais finalement, si le langage naturel est toujours, parle toujours des créatures, quand on dit, par exemple, Dieu est seigneur de monde, voilà, le seigneur, c'est un terme politique. Donc le langage parle toujours des créatures. Donc une autre solution, ça va être la théologie négative.
Apophatique.
Voilà, la seule chose qu'on peut dire de Dieu, c'est de dire ce qu'il n'est pas. On va retrouver, par exemple, cette idée que voilà, il est une chose qui n'est pas comme les choses. Mais justement, on a des limites, c'est qu'on ne peut rien dire de Dieu. Donc la solution d'Al-Kindi, c'est de dire qu'en fait, oui, le langage naturel parle du monde directement et indirectement ou de façon métaphorique de Dieu. Eh bien, il existe un langage qui fait exactement le contraire. Ce langage, c'est le langage arithmétique.
Et qui a une providence.
Alors, avant la question de la providence, c'est ce retournement. C'est-à-dire que quand je dis un, je dis d'abord un absolument, avant de dire un livre, une personne. Donc, en fait, le mathématique parle en soi de la transcendance, de l'absolu, de Dieu, et seulement métaphoriquement du monde ici-bas. Donc, Al-Kindi nous dit, ben, en fait, le langage de la théologie, c'est l'arithmétique. Et cette idée, on va la retrouver dans les épis des frères en pureté qui disent, en fait, la science de l'unité divine et le langage qui articule cette science, c'est l'arithmétique.
Et c'est pour ça qu'on retrouve chez eux l'idée que les êtres sont les nombres ou sont ce qu'on dise les nombres.
Alors, le pythagorisme, c'est... Alors, pourquoi, donc, à ce moment-là, ils se revendiquent pythagorisme? Parce que le pythagorisme, c'est cette doctrine antique, qui affirme que les êtres, le principe des êtres, C'est-à-dire, si on enlève tous les accidents, tous les changements des êtres, à la fin, on se retrouve avec des nombres. Alors, les épites de frères en pureté se revendiquent pythagoriques sans être à ce niveau de pythagorisme. C'est-à-dire qu'il y a aussi un développement de leur pythagorisme. C'est-à-dire le pythagorisme hérité de l'Antiquité donne à chaque être un nombre. Et par exemple, à chaque divinité va attribuer un nombre. Ce que disent les épîtres des frères en pureté est un petit peu plus complexe et un peu plus développé. C'est que, en fait, les êtres ne sont pas des nombres, mais sont relativement à l'ordre des nombres. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire que les êtres seraient ordonnés entre eux et les parties des êtres seraient ordonnées entre elles comme les nombres sont ordonnés entre eux. Très simplement, la suite des nombres arithmétiques, 1, 2, 3, 4, 5, etc., aurait pour équivalent dans l'être la suite des êtres. C'est-à-dire qu'il y aurait d'abord l'être de rang 1, c'est-à-dire Dieu, puis l'être de rang 2, qui va être chez eux l'intellect, puis l'être de rang 3, l'âme, etc., etc. C'est-à-dire que on peut faire un parallèle entre l'ordre des êtres, entre l'ordre des nombres et l'ordre des êtres. La conséquence importante, c'est que il faut non pas attribuer à chaque être un nombre, mais comprendre comment les êtres s'articulent les uns avec les autres. Et ça, cette articulation des nombres entre eux, ce n'est plus ce que fait l'arithmétique, mais ce que fait une autre science mathématique, ce qui est l'harmonie. L'harmonie, c'est la base de la musique, c'est la science des rapports entre les nombres. Et l'harmonie va être le modèle pour penser l'organisation du monde.
Il y a une finalité à l'arithmétique via l'harmonie.
Alors, la question, c'est pourquoi les êtres seraient-ils ordonnés de façon arithmétique? À quoi bon? Ben, ce que disent les frères en pureté, ce n'est pas que c'est une nécessité de la nature, mais c'est que c'est, comme vous l'avez dit tout à l'heure, une providence. C'est-à-dire que Dieu a voulu ordonner les êtres en fonction des nombres. Pourquoi il dit ça? Parce que le problème de l'ordre des nombres, si on reprend la suite arithmétique, 1, 2, 3, 4, ainsi de suite, ça c'est nécessaire. Il faut, pour construire le 2, avoir le 1 avant, et ainsi de suite. Par contre, il y a des choses totalement conventionnelles dans le nombre. Par exemple, que l'on découpe entre unités, dizaines, centaines, milliers. Et ça, cette conventionnalité de l'organisation des nombres, les épîtres en sont tout à fait conscients, puisque on peut découper le nombre en base 10, comme on fait, mais aussi en base 60, comme le fait l'astronomie. Donc pourquoi?
Le système sexagésimal.
Tout à fait, qui est la base de la façon dont on compte le temps et qui est la base de l'astronomie. Pourquoi donc le découpage en base 10, qui est 10 unités, les dizaines, les centaines et les milliers, nous parlerait de l'ordre du monde alors que c'est une convention? Ben, les épîtres disent, oui, c'est une convention, mais c'est une convention divine. C'est-à-dire que Dieu a voulu ordonner mathématiquement le monde pour que les hommes soient capables de comprendre cet ordre du monde. Et en comprenant cet ordre du monde, ils sont capables de le penser de façon mathématique, et donc de remonter à la suite des nombres arithmétiques, et de remonter à l'un, à l'idée de Dieu. C'est-à-dire que c'est grâce à l'ordonnancement mathématique du monde que Dieu a donné aux hommes l'outil pour le connaître, et pour connaître leur destinée future.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam avec Guillaume Devaux d'Arcy, le philosophe, chercheur à l'Institut français du Proche-Orient et membre de l'Institut dominicain d'études orientales. Nous parlons du pythagorisme arabe, des débuts de la philosophie islamique et tout particulièrement des épîtres des frères en pureté, et pas de la totalité des épîtres, de quelques-unes. Et si je vous pose, Guillaume Devaux d'Arcy, la question relative à l'épître 33, dans le sillage de ce que vous venez de dire, cette intelligibilité du monde et de Dieu est rendue accessible au possible via les nombres ou via l'arithmétique, passant par l'harmonie. C'est comme ça qu'il y a cette providence, et c'est ce que vous percevez ou vous comprenez, notamment dans l'épître 33.
Dans l'ouvrage où je traduis 6 épîtres, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis en parallèle une épître mathématique et une épître, disons, plus philosophique. Dans l'ouvrage, il y a 6 épîtres mathématiques, mais il y a 3 épîtres fondamentalement mathématiques. Les autres en sont des applications. Il y a l'arithmétique, donc qui est la science du nombre. Il y a la géométrie, qui est la science des figures, enfin des dimensions et des figures. Et il y a l'harmonie, qui est la science des rapports entre les nombres. À chacune de ces 3 épîtres qui proposent des concepts nouveaux, le nombre, les dimensions ou la figure et le rapport, j'ai mis en parallèle une épître, disons, plus philosophique, pour montrer, en fait, que le caractère liminaire des mathématiques n'est pas simplement propédeutique, n'est pas simplement un point de départ, mais aussi un principe. C'est-à-dire que les concepts sont élaborés de façon mathématique et ensuite sont appliqués à d'autres champs du savoir. Par exemple, même pour donner très rapidement un exemple, la suite des nombres des antinaturels, qui est la base de l'arithmétique, va être utilisée de façon dans un ordre politique. C'est-à-dire comment diffuser une doctrine, comment mettre en place une communauté, ben comme les nombres se mettent en place, chaque en convertissant un à un les hommes, non pas en groupe, mais un à un. Et à ce moment-là, on peut arriver à l'infini simplement en convertissant à chaque fois une personne. Alors, j'ai mis en parallèle l'épître arithmétique avec l'épître 33 que vous venez d'évoquer sur les principes intelligibles. J'ai mis ensuite l'épître sur la géométrie en rapport avec l'épître 29 sur la sagesse de la mort. Pourquoi ? Parce que, on pourra rediscuter, mais la géométrie est la base pour comprendre le salut de l'âme. Et enfin, j'ai mis l'épître sur les rapports harmoniques, les rapports musicaux, avec l'épître sur les gouvernements, parce que c'est ainsi que l'on comprend le gouvernement de soi, de la cité, et aussi le gouvernement de l'âme que fait la religion. Alors, pour les principes intelligibles et leur fondation arithmétique. Donc, on a dit, l'arithmétique a pour principe l'un.
On est dans une facture néoplatonicienne aussi.
On est dans une facture néoplatonicienne où on pense l'un comme le principe. Et alors, il y a quelque chose de très, très intéressant. C'est que, au moment où on rentre dans le cadre islamique, et alors, ça, c'est chez les maîtres des Al-Kindi, l'un était encore un nombre. Or, si on dit que 1 est Dieu, ou que Dieu est l'un absolument, en fait, ça pose problème. Et comme le dit très clairement Al-Kindi dans la philosophie première, en fait, si l'un est le premier nombre, en un fait, il est en même temps le plus petit. Donc ça poserait problème de faire de Dieu le plus petit des êtres. Il le dit explicitement, il doit être Al-Aqal, le plus petit, il doit être Al-Akbar, le plus grand. Et donc, Al-Kindi va sortir l'un du nombre. Il va dire, ce n'est pas un nombre, c'est le principe du nombre. Et un nombre, il va le définir ainsi, c'est une multiplicité d'un. Définition que reprennent les épîtres des frères en pureté. Et ce qui est très intéressant, c'est que Al-Kindi s'intéressait à la dimension théologique, s'il revenait à l'un et à Dieu. Eh ben, les épîtres des frères en pureté sont un grand ouvrage philosophique parce qu'en fait, elles redescendent à la multiplicité. Elles essayent de penser la multiplicité. Elles essayent de penser la création, le monde, fondamentalement. Et cette pluralité infinie qui caractérise l'ici-bas. Il y a toujours des passages qui nous disent, voilà, il y a une infinité d'êtres que nul ne peut recenser si ce n'est Dieu, mais on peut au moins en parler de certaines catégories. Alors, quelles sont les catégories qui sont formées? Ben, ce sont, on va les toute école philosophique, toute secte religieuse va se concentrer sur quelques principes. Les manichéens seraient ceux qui seront concentrés sur les vérités du Dieu. Les chrétiens auraient découvert et entretenu toutes les vérités du Trois. Et ainsi de suite, on peut classer toutes les doctrines, qu'elles soient religieuses ou philosophiques, selon la suite des nombres entiers naturels. Et comme on l'a dit tout à l'heure, la vérité se situerait dans la suite de ces nombres. Et donc l'épître sur les principes intelligibles, l'épître métaphysique, va attribuer à chaque réalité un nombre ou un type de nombre. Donc ils sont dans un schéma en effet platonicien ou néoplatonicien. Il y a un monde intelligible et un monde sensible, le monde intelligible.
Comme émanation.
Voilà. Il y a un schéma d'émanation, c'est-à-dire que l'idée d'émanation, c'est une solution à la question de la création. C'est-à-dire comment créer sans avoir de médiation pour créer. C'est-à-dire comment un peut créer quelque chose sans avoir un outil ou comment un seul Dieu pourrait créer sans avoir une femme, une déesse avec laquelle il l'engendrerait. Mais l'idée d'émanation, c'est l'idée solaire. Des rayons qui émanent du soleil. C'est-à-dire que l'être lui-même, par sa puissance, produit comme du soleil émane ses rayons.
Et pour régler aussi un autre problème qui est la perfection divine, parce que si Dieu est parfait, comment se fait-il qu'il éprouve le besoin à un moment donné de dire « je crée » parce que ce qu'il y avait avant la création n'était pas suffisant ou ça ne lui plaisait pas. C'est de fait, naturellement et ontologiquement, il y a cette notion d'émanation.
Oui, qui en effet résout ce problème de la sagesse de la création, mais qui pose le problème de la puissance de Dieu, parce que si on le contraint à créer, alors il n'est plus tout puissant. Mais ce qui est intéressant ici, c'est en quoi en effet les mathématiques sont bien le principe de toute science dans les épis des frères en pureté, et donc elles sont réellement pythagoriciennes, et c'est que, en fait, chaque type d'être va être associé à un type de nombre. Les êtres intelligibles vont être associés aux nombres entiers, les êtres sensibles vont être associés aux nombres fractionnaires. Et un nombre fractionnaire, en effet, un tiers, par exemple, suppose les nombres entiers. Et donc, ils en sont, en fait, la suite logique.
Bien. Guillaume de Vaudarcy, nous nous approchons, hélas, parce que c'est très passionnant ce que vous nous dites de la fin de l'émission, j'aimerais vous poser une toute dernière question sur ce que vous évoquez comme étant le paradigme de la ruche. Comme ça, nos auditeurs comprendront cette notion-là et nous finirons là-dessus.
Oui, ces mathématiques se retrouvent partout et aussi chez les autres créatures. Les abeilles construisent leur ruche selon un ordre mathématique. Alors, cette idée est reprise d'un philosophe qui s'appelle Sabitme Kura, qui était un grand mathématicien.
Le Tébet des auteurs latins, qui serait sabéen, qui se serait islamisé à la fin de sa vie.
Alors, on n'a absolument aucune idée, mais
auteur des nombres amiables.
En tout cas, voilà, les nombres amiables sont très importants. Ce que je retiens, c'est que Sabitme Kura était commensal à la cour de Calife al-Mu'tadid, en même temps que l'élève d'Al-Kindi, Armin Ibn Tayyib al-Sarrarsi, à qui j'attribue les épîtres des frères en pureté, et il a eu un concept d'amitié. C'est-à-dire que Sarrarsi, l'auteur des épîtres des frères en pureté, a eu un concept très important d'amitié, c'est les frères en pureté. Sabitme Kura a développé mathématiquement ce que c'est l'amitié. L'amitié, ce sont les nombres amiables. Un nombre amiable, c'est quoi? C'est un nombre dont la somme des diviseurs est égale à un autre nombre et réciproquement. Donc c'est un nombre qui se constitue par les éléments d'un autre nombre. Et donc l'amitié ici est un lien essentiel entre deux nombres qui correspond de façon assez manifeste à ce que les épîtres ont fait au niveau philosophique avec les frères en pureté.
Eh bien, mon cher Guillaume de Vaudarcy, merci infiniment de nous avoir édifiés par le contenu de ces épîtres des frères en pureté. Il y a une épître un peu globalisante ou synthétisante ou qui fait la synthèse de tout ça. Je renvoie nos chers amis auditeurs à la fois à vos travaux, mais aussi à aller s'instruire sur l'œuvre monumentale de ces encyclopédistes d'avant la lettre et qui sont considérés comme les lointains précurseurs des encyclopédistes des Lumières. Chers amis auditeurs, vous retrouverez toutes les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. L'attaché d'émission est Daphné Abkral. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Cédric Châtelus et la réalisation est toujours assumée par l'ami Franck Lilin.
Ah.